vie personnelle, notre vie subjective, notre vie spirituelle, à nous. Et puis le prochain cercle, c'est le cercle de nos proches, de notre famille. Et puis le prochain cercle, c'est notre communauté, peut-être, notre pays. Et puis on peut élargir de plus en plus en plus, jusqu'on arrive à tous les êtres vivants. Ça c'est le... On ne peut pas imaginer plus que ça. Et je n'ai pas encore vraiment essayé de think this through, de le penser plus loin. Mais si ces quatre tâches ont une certaine validité, ils doivent les appliquer à chaque de ces cercles concentriques. Alors évidemment, de répondre à la souffrance structurelle de l'oppression des dictatures en Afrique ou ailleurs, ça c'est pas du tout la même chose de répondre à la souffrance personnelle de notre angoisse, ni la même chose de répondre à la souffrance de tous les êtres comme ça. Il faut donc élaborer une façon de pratiquer qui corresponde justement à chaque étape dans cet élargissement des cercles. Mais il y a certainement des gens aujourd'hui qui essayent de développer une éthique sociale bouddhiste, les soi-disant bouddhistes engagés, engaged bouddhistes, qui essayent en effet de ne pas réduire la souffrance à les sentiments personnels, mais plutôt de reconnaître qu'en effet la souffrance existe dans les structures politiques, économiques, sociales, tout ça. Et ça, c'est une partie de notre pratique également. C'est pas simplement personnel du tout. Mais il faut élargir ce truc. Et c'est dans cette optique-là qu'on peut peut-être comprendre comment, au début, le Bouddha voulait créer les fondations pour une civilisation, pas simplement pour une psychologie personnelle. La psychologie, c'est certainement une partie assez importante, mais on ne peut pas réduire tout ce qu'il a enseigné à des termes psychologiques. Éthique aussi, évidemment, mais encore plus que ça. Et ça c'est ridiculously ambitious. Ça, c'est vraiment une fantaisie, peut-être. Mais je crois qu'en tant que philosophe bouddhiste, qu'il faut penser ces choses. Même si je n'ai pas des réponses à toutes ces difficultés. Mais je crois que nous sommes dans l'Occident, pas seulement en Occident, mais maintenant dans le monde entier, nous sommes dans une situation qui n'est pas du tout la même de la situation où le Bouddha a vécu en Inde il y a 2500 ans. Il y a des choses comparables, évidemment. Mais nous avons le défi, we face the challenge, d'imaginer ces valeurs, ces concepts, ces idées, ces pratiques, les élaborer dans un système de pensée, de pratique, d'éthique qui peut nous aider à confronter les vraies souffrances de ce monde où nous trouvons aujourd'hui.
Parce que effectivement, c'est très révolutionnaire, parce que si chacun suivait même un petit peu ça, il aurait...
Oui, mais... yeah, that would be wonderful, mais il faut être réaliste aussi. Oh, I'm sorry, I'll ask it when you can.
Personnellement, j'ai l'impression que les quatre nobles vérités, les quatre tâches ne sont pas si éloignées que ça l'une de l'autre. Les quatre nobles vérités, je les vois d'un point de vue, je les comprends d'un point de vue comme si elles s'adressaient à mon ego, craving. Et que de ce point de vue-là, c'est pas du tout métaphysique pour moi. Mm-hmm. Et ensuite, les quatre nobles tâches, elles élargissent un peu le scope et s'adressent un peu d'un point de vue plus impersonnel. Donc, je ne les trouve pas très...
Très éloignés les uns des autres.
C'est comme les cercles concentriques dont vous parliez à l'instant.
Oui, non, et c'est bien possible que j'ai une certaine déformation professionnelle et que je trouve dans ces idées, c'est le problème de l'expertise. Quand on regarde les choses de proche, on voit des différences importantes dans les choses qui ne sont pas peut-être aussi importantes qu'on imagine. Mais franchement, j'insiste que, en effet, les quatre nobles vérités, ça c'est une sorte de huis clos. Ça peut nous donner des idées qui sont utiles, mais le concept dans sa totalité, je ne trouve plus utile. I'm afraid. Oui, Stéphane.
Alors, ce que je trouve très intéressant dans ta présentation, c'est que tu m'as donné une explication, vraie ou fausse, j'en sais rien, mais je me suis souvent posé la question, pourquoi le bouddhisme a échoué en Inde?
A échoué en Inde, oui.
Et en fait, tu présentes pour moi une explication qui est que c'était une interprétation éthique. Mm-hmm. Et donc, évidemment, une éthique, ça ne marche pas du tout, parce que ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que c'est dualiste. C'est, il faut qu'on soit comme ça. Mm-hmm. Donc, il y a ce dualisme dans ce que tu présentes, qui est qu'on a un idéal, il faut aspirer à cela, tout ça. Alors, c'est très intéressant parce que quand, par rapport aux quatre vœux, avec Judith, on a récemment lu un livre par Maizumi Roshi, ça m'a totalement ouvert les yeux quand il a dit finalement sentient beings are boundless, I vow to liberate them all, parce qu'il n'y a pas de différence entre moi et les autres.
Ouais, exactement.
Donc, il n'y a plus de dualité. Il n'y a pas une norme comme ça devait être. Je dois les libérer à les pauvres Africains ou les pauvres Français qui votent comme ceci et cela. Non, c'est moi qui vote, c'est moi qui est pareil. Il y a une unité à tout cela. Donc, la question que j'aimerais te poser aussi, est-ce que pour toi, le concept de Buddha Nature a un sens ou c'est une invention qui est venue 400 ans plus tard?
C'est une invention qui est évolue plusieurs siècles plus tard, c'est clair. On ne trouve pas ce concept dans les textes les plus anciens. Mais ce ne va pas dire que le Buddha Nature n'a aucun sens pour moi. Mais il faut accepter aussi que les bouddhistes ne sont pas d'accord avec ce que veut dire la nature de Bouddha. Ce n'est pas un terme que j'utilise dans mes livres parce que je ne vois pas énormément de utilité dans ce terme-là. Mais ce qui est plus important que cette idée de Buddha Nature, c'est de reconnaître comme tous les êtres, certainement tous les êtres humains, ont en eux-mêmes une capacité de se transformer les idées, transformer le sentiment, transformer leur vie, transformer les relations avec les autres afin de devenir les êtres plus sages, plus compatissants, tout ça. Et ça, c'est la nature du Bouddha selon les textes des enseignements Gelugpa. Dans le Gelugpa, qui était mon tradition de base, la nature du Bouddha était la même chose que la vacuité, l'absence d'un soi inhérente. The absence of an inherently existent self. C'est ça qui est la nature du Bouddha. Il n'y a pas une nature du Bouddha qui existe comme une sorte de réalité cachée en nous-mêmes quelque part, une sorte de luminosité naturelle de l'esprit, comme on trouve dans le Dzogchen ou dans le Advaita Vedanta et tout ça. Mais c'est simplement le fait que notre être humain, notre humanité, effectivement, n'est pas fondée sur quelque chose qui existe en soi-même. Que nous sommes des conditions contingentes, impermanentes et vides aussi, qui n'ont pas une essence transcendante ou immanente. Nous sommes les créatures qui peuvent changer. Et cette capacité de changer, cette capacité de devenir plus sage ou n'importe quoi, selon votre... effectivement, c'est la nature de Bouddha est effective dans ce sens-là, et la capacité que nous avons de devenir la sorte de personne dont on aspire de devenir. Ça veut dire, ça remonte c'est une idée éthique, c'est pas une idée mystique ou
spirituelle.
Non, what is the self?
Well, the idea that c'est ce que j'aspire à devenir.
What is wrong with that? We're all selves. Ouais. What is the problem with self? I don't get it. I really don't get it. The Buddha never denied the existence of self. Il n'a jamais nié l'existence de self. Ça, c'est une croyance bouddhiste qui n'existe pas une soi. Et ça, c'est absolument ridicule. C'est une idée qui ne fonctionne pas du tout. Je n'ai aucun problème avec
so
le concept. emptiness. I can't explain emptiness in 2 minutes. Mais la vacuité n'a rien à voir avec l'absence de soi. Rien du tout. La vacuité est comprise dans plusieurs façons, mais dans les textes les plus anciens, dans le Pali Canon, il y a un texte, le Chula Shunyata Sutta, le discours sur la vacuité. Et pour le Bouddha, la vacuité est exactement la même chose que le Nirvana, ça veut dire l'absence de réactivité en nous-mêmes. C'est cette capacité de vivre sans être conditionné par les habitudes réactives de l'esprit. Le Bouddha ne parlait pas de vacuité comme quelque chose qu'il faut comprendre, il n'a jamais dit ça, mais la vacuité, c'est un état où il faut demeurer. It's a dwelling. So you to dwell in emptiness, de demeurer dans la vacuité, c'est de demeurer dans cet espace ouvert et libre qui n'est pas sous l'emprise de la haine, de l'attachement, de l'égoïsme et tout ça.
Where's your ethical norm then?
Ethical norm is what you seek to, in every situation you find yourself in, you are called upon to respond. And how you respond is your ethical life. And you respond according to the norms that either your traditions or you or your community have set up that you wish to live by. And if there were no emptiness, there would be no possibility of an ethical life. If there were no absence of being stuck in egoism and attachment and so on, you would just spend your life going around in circles. And what evolves is you. This is a process of evolution, of a development, and it's you who evolve. It's me who evolves. It's him who evolves. And why is that a problem? I really don't get it.
Je voulais revenir sur ce que disait Stefan, or do we speak in English?
It looks as though we are speaking English. My French is kind of gone down.
Because the question of what you said as far as be trying to be what one would like to be.
Yeah.
And I felt the same feeling, and I think I know why, because it seems as if it's an ideal and a craving. And I thought maybe one could see it more in a situation, what one doesn't want to be. In other words, instead of looking at it towards something, saying more in the seizing, I don't want that.
Yeah, sure.
And it would take away that aspect of an ideal, of a craving.
I don't think ideals and craving necessarily go together at all. I think I can't quite see how one could live a human life without having an ideal of the kind of person one would seek to be. I don't see how you could then make any moral or ethical judgments.
I can tell you, I've lived all my life striving after ideals, and I've suffered and suffered and suffered non-stop of it.
Maybe you were striving after the wrong ideals.
But ideals, that's right.
Maybe also because the ideals are not necessarily to be reached.
Ideals are not to be reached.
As you say, these vows is something that's impossible. You strive towards it, not necessarily wanting to get exactly to this point of liberating everybody, but just do as much as you can.
That's right.
Towards it.
That's right. There is a scientific term called asymptotic, I think. Which means, is that right?
Asymptotic.
Asymptotic. Which means that, you know, you aspire to reach certain ideals or goals on the tacit understanding that they will never be reached. But you can approximate your life more and more to something that's closer to that goal. But it's not actually something you'll ever reach. It's a kind of a magnetic sort of pull to live a certain way. But I want to go back to your point. There's two parts of this practice. One, as you say, is letting go. And in fact, I think you can phrase it very well that way, that, you know, I have a clear sense of the sort of person I don't want to be. I don't want to be greedy. I don't want to be neurotic. I don't want to be cruel. I don't want to be etc., etc., etc. And so the second task, is basically the task of letting go of what it is that is, in a sense, driving you to become the kind of person you would not wish to live with. But the second part of the practice is actually the positive cultivation of virtues. And so the second task is letting go. The fourth task is what they call cultivating, developing. Developing the so-called virtues in Greek thought. And so it's the two together, I think, that have to go hand in hand and need to find some sort of balance or equilibrium. But you can't have one. I don't think you can just have one or the other. I think you need both. That's my sense. And that's what you become. My own sense is that as you practice this in the real world, that is a process of, in a sense, self-creation. It's the way we refine the raw materials of our existence to become more and more in tune with what we most deeply hold as our values. As what we admire in those that we aspire to emulate. So that to me is ethical, but it's also deeply spiritual, because it is a very challenging work on oneself to not be caught up in these habits, but to find a way of freeing oneself from them. And it's 10:10. I've got 2 days of work to do tomorrow night. Thank you very much. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Steven. Merci. Deux choses. D'abord, il y a un.